Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
À l'approche de la solennité de la Sainte Trinité, célébrée cette année le 26 mai, nous essayons de percer ce grand mystère. Trois personnes en une, qu'est-ce que ça signifie? Quelle relation entre elles? Quel rôle ont-elles? Comment les prier et s'en inspirer? Réponse dans Vivante Église avec une théologienne et un philosophe. Quand nous parlons de la Trinité, nous avons en tête cette célèbre icône d'Andrei Rublev. Elle représente trois personnes, toutes trois auréolées avec des ailes dans le dos. Elles sont assises à la même table et chacune est vêtue de couleurs différentes. Est-ce là tout le résumé du mystère de la Trinité ? Pour nous éclairer aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir sœur Anne-Claire Favry, théologienne et religieuse de la communauté de la Croix Glorieuse. Bonjour ma sœur.
Bonjour.
À vos côtés, Michel Naudet-Langlois. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes aujourd'hui à la retraite après une longue carrière de professeur de philosophie, notamment au lycée Fermat à Toulouse.
C'est cela.
Pour commencer, j'aimerais que nous fassions un petit détour par cette notion de mystère. Est-ce que ça signifie que nous ne pouvons rien y comprendre, Michel Naudet-Langlois?
Surtout pas.
Surtout pas.
Surtout pas. En tout cas, dans l'usage chrétien, je dirais, de ce terme et de cette notion, on a en tête peut-être le titre de quelques romans, comme Le mystère de la chambre jaune.
Ah,
alors,
oui. Ça,
quand il s'agit d'une énigme policière, bon, c'est une question difficile à résoudre, mais dont on a la solution à la fin.
Oui.
Dans l'acception chrétienne et théologique du terme, on retrouve le sens du mot grec dont le terme mystère provient. On prononçait mysterion, on peut prononcer mysterion puisque le U des Grecs modernes, comme sans doute celui des Grecs anciens, se prononçait I, ce qui a donné notre I grec. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le terme renvoyé à des initiations secrètes, comme les fameux mystères d'Éleusis, bon, qui étaient tenus en grand secret, avec même des punitions infligées à ceux qui révélaient ce qu'ils y avaient entendu. Bien. Alors, c'est cet aspect-là qui demeure dans l'acception chrétienne du mystère. Il faut traduire ça par « secret ». Et peut-être qu'on gagnerait à toujours parler du secret quand on a besoin de parler de mystère. Et de quoi s'agit-il ici? Non pas de quelque chose qui doit rester secret.
Oui.
Au contraire, c'est quelque chose qui doit être divulgué. On se souvient des ultimes paroles de Jésus, « Allez enseigner toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». C'est-à-dire que c'est bien la Trinité qui est au centre de l'envoi des apôtres. Mmh. Alors, en quoi est-ce qu'il y a là un secret? Tout simplement au sens où il s'agit de quelque chose que Dieu seul connaît, et parce que ça le concerne. Alors, ça n'est pas qu'on ne puisse rien connaître de lui. L'Église a toujours enseigné, depuis Saint Paul, notamment depuis Romains 1:20, qu'au sujet de Dieu, il y a des choses que nous pouvons appréhender par l'intelligence, dit Saint Paul. Donc voilà, c'est le domaine de la raison humaine. Les philosophes l'ont cultivé et en effet, ils sont arrivés à dire, surtout les plus grands des Grecs, Platon, Aristote, ils sont arrivés à dire sur Dieu des choses que ensuite nos grands docteurs, comme Saint Thomas, Saint Augustin avant lui, ont reprises, conservées. Voilà, il y a des choses qui nous sont accessibles grâce à notre raison naturelle. Et puis, il y a ces vérités qui sont des secrets divins et des secrets qui ne sont accessibles que si ils sont révélés. Et le mystère, pour le coup, de Jésus en tant que tel, de Jésus en tant que Verbe incarné, c'est le mystère de la parole divine qui vient se rendre humainement présente pour révéler ce secret qu'est la relation ou l'ensemble des relations que Jésus a au sein même de la divinité. Et c'est ça que nous appelons le mystère de la Sainte Trinité.
Mmh. Sœur Anne-Claire, vous voulez compléter?
Oui, dans l'Épître aux Éphésiens, il y a une expression, alors je ne sais plus exactement le verset, je n'ai pas prévu d'en parler, une expression qui est très forte. Saint Paul dit « Ce mystère caché depuis les origines est maintenant révélé ». Et en fait, quand on étudie le mot mystère dans les épîtres pauliniennes, on est à une nouvelle étape avec l'incarnation, avec la résurrection du Christ, avec le don de la Pentecôte. Une nouvelle étape où le mystère n'est plus caché mais révélé. Et où la mission finalement de l'Église est de transmettre, d'annoncer ce mystère révélé.
Et on le voit bien, c'est ce que vous disiez, avec cet envoi aux missions des disciples, il y a vraiment cette notion de divulguer finalement ce secret. Alors, puisque nous pouvons avoir accès à ce mystère de la Trinité, bah, allons-y, plongeons. Sœur Anne-Claire, vous êtes une spécialiste de Saint-Augustin, et c'est vrai que Michel Naudet-Langlois, vous avez évoqué Saint-Augustin et Saint-Thomas. Qu'est-ce que Saint-Augustin, quel est le regard qu'il pose sur la Sainte Trinité ?
Alors, Saint-Augustin a énormément réfléchi, prié, travaillé sur le mystère de la Trinité depuis le début, hein, puisque dans ses premières œuvres, les œuvres qu'on dit de la prêtrise, c'est-à-dire des années où il est devenu prêtre, il aborde cette question. En fait, quand il réfléchit au mystère de Dieu après sa conversion, il y réfléchit avec la confession de foi. Augustin est après le concile de Nicée, on est dans la période où l'Église doit faire ce travail de réception en fait de ce qui a été proclamé dans les grands dogmes christologiques qui ont la conséquence de poser le mystère de la Trinité. Et en fait, Augustin va faire ce travail de réflexion à partir de là où il vient, et là peut-être que vous pourrez me compléter, à partir du lien, Augustin a une culture aussi philosophique, en particulier très marquée par le néoplatonisme, par Plotin. Et donc, il va essayer dans un premier temps d'articuler ce qu'il reçoit de Plotin, avec la confession de foi chrétienne qu'il accueille dans sa conversion. Et donc ça, dans un premier temps, donc on a des œuvres. Et puis à partir de 400, pendant une vingtaine d'années, il va travailler à une de ses œuvres magistrales d'un point de vue spéculatif, qui est le De Trinitate, justement. Donc qui est une œuvre qu'il a mis 20 ans à l'écrire, évidemment, parce qu'il ne faisait pas que ça.
C'est un gros traité, c'est ça ?
Alors c'est un traité de 15 livres. Donc une œuvre magistrale, hein, les grandes œuvres spéculatives, je dirais, le pendant, c'est la Cité de Dieu, quoi. Hein, bon. Voilà. Ou qu'est-ce qu'il fait dans le De Trinitate ? C'est que d'abord, il va, dans un premier temps, s'efforcer d'expliciter et de défendre les aboutissements des conciles. Et dans un deuxième temps, alors ça c'est la grosse partie du livre, où là il reprend des choses qui sont dites ailleurs, en particulier dans son prédécesseur Saint-Hilaire de Poitiers, qui avait écrit aussi un traité sur la Trinité. Donc il reprend tous ces éléments, mais ensuite il va dans une deuxième partie, et c'est là que c'est un petit peu original, il va puiser dans la réflexion, je dirais, à partir de cette affirmation de foi que nous recevons des Écritures, que l'homme est créé à l'image et ressemblance de Dieu. Il va considérer, c'est quelque chose qui a été longtemps discuté, qu'est-ce que ça veut dire, hein, créer, l'homme créé à l'image et ressemblance de Dieu. Il va poser que l'homme est créé à l'image et ressemblance du Dieu Trinité. Et donc il va chercher, puisque l'homme est à l'image du Dieu Trinité, il va chercher dans l'homme des images de Dieu. Et donc il va, dans la deuxième partie du De Trinitate, explorer un certain nombre d'analogies, en fait, du mystère trinitaire à partir de ce que vit l'homme. Et alors il y a deux grandes catégories. Il y a une catégorie que souvent on ne souligne pas, et c'est dommage, qu'on va retrouver dans la tradition postérieure, mais qu'on ne souligne pas souvent chez Augustin, qui, d'après Marianne Vianney, qui a écrit un magnifique ouvrage sur la Trinité chez Augustin, et l'essentiel, l'analogie de l'amant, de l'aimé et de l'amour. Analogie donc aux trois personnes divines. Et puis ensuite, il va y avoir des analogies avec l'esprit humain, parce que ce que Augustin va essayer de comprendre et faire comprendre à travers ces analogies, c'est cette articulation entre le 1 et le 3.
Eh oui.
C'est toujours le problème. Et c'est vrai qu'en Occident, on va avoir tendance à souligner l'unité. Et Augustin va essayer donc de montrer comment c'est possible. Alors ça, c'est le regard, je dirais, théologique, avec dans cet énorme ouvrage, qui est un ouvrage un peu difficile, hein, et donc c'est vrai qu'il n'est pas beaucoup lu. D'abord parce qu'il faut s'affronter à ces gros ouvrages spéculatifs, ouais. Il y a quand même qu'un certain nombre de limités de lecteurs qui s'y lancent. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Augustin, en même temps, est prêtre, et prédicateur et évêque. Hein, en ouais. 400, il est évêque.
Ouais, c'est un pasteur qui a soin quand même d'enseigner ses brebis.
Voilà. Et donc, en fait, on va retrouver en langage plus simple les mêmes choses dans sa prédication. Et donc, il va retrouver, par exemple, on a son sermon 52 sur la Trinité, où il va reprendre exactement les analogies pour montrer l'unité de la Trinité et tout ça. Mais il va ajouter autre chose qui, là, renvoie à son expérience de vie, et on y viendra sans doute un peu plus tard dans l'émission, son expérience de vie communautaire. En fait, Augustin va, et son expérience ecclésiale, Augustin va regarder la Trinité à partir de l'expérience de l'Église qui pour lui se résume dans les premiers chapitres des Actes des Apôtres. Ils étaient assidus à la prière, à l'enseignement des apôtres, etc. Et ils étaient un seul cœur et une seule âme. Et en fait, il va... Pourquoi ils sont un seul cœur et une seule âme au lendemain de la Pentecôte? Puisque dans les Actes des Apôtres, c'est clairement au lendemain de la Pentecôte. Parce que c'est le Saint-Esprit qui unit des personnes diverses dans la communion, c'est l'action du Saint-Esprit. Et Augustin va voir dans cette communion fraternelle, donnée par le Saint-Esprit, en fait, à la fois une image de la Trinité, c'est-à-dire que comme le Saint-Esprit nous unit tous pour que nous soyons un seul cœur, une seule âme, ce qui va retenir c'est le 1, eh bien, en fait, c'est le même esprit qui est l'amour au sein de la Trinité et qui fait l'unité de la Trinité. Et donc, ce qui est très important, parce que du coup, ça veut dire que notre communion, nous la recevons de la Trinité, par le Saint-Esprit, qui nous a été donné, l'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, Romains 5, 5, qui est le grand texte phare d'Augustin, et sur le mystère trinitaire et sur le Saint-Esprit. Et donc, en fait, ce regard donc à la fois de cette communauté qui se reçoit de la Trinité et qui, en même temps, est icône de la Trinité. Mmh. Et ça, je pense que c'est vraiment l'originalité du regard d'Augustin sur la Trinité.
Mmh. Michel Naudet-Langlois.
Oui, notre sœur soulignait la difficulté du traité de la Trinité que j'ai apporté.
Vous l'avez sous les yeux.
Ce que je trouve très beau chez saint Augustin, c'est que même quand il est aussi spéculatif que dans ce traité, on a l'impression qu'il prie constamment en écrivant et qu'il écrit en priant. Voilà. Et même dans ces argumentations les plus abstraites qui ont nourri ensuite les pères qui ont suivi, en tout cas les pères latins, et puis qui ont nourri les pères, les docteurs médiévaux comme saint Thomas, qui lui a presque tout repris, enfin qui lui a tout repris, mais qui a ajouté des choses de son propre cru, on pourrait dire. Mais ce qu'on trouve chez saint Thomas, c'est ce qu'on trouve déjà, et la sœur a abordé la question avec l'analogie de l'amant, de l'aimé et de l'amour, et puis il y en a une autre que saint Thomas reprend à son compte dans la somme de théologie, bon, on en parlera. Voilà, saint Augustin ne parle jamais de la Trinité sans en prier, et c'est-à-dire finalement sans être en acte dans la vie trinitaire, telle qu'un homme peut la vivre. Bon, il fait ce qu'a fait le Christ. Hein. Le Christ a dit à Pilate, si je suis né et venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Bon, il en est mort, on le sait. Et la vérité en question, en fait, c'était la vérité sur lui-même, et lui-même, c'était donc lui-même en relation avec son Père. Alors je crois qu'il y a quelque chose de décisif dans l'approche de ce secret divin, c'est la prière du Christ. parce qu'on ne se prie pas soi-même. Oui. Il prie constamment en disant « Père », il l'appelle « mon Père », mais ça n'empêche pas de dire à ses apôtres, enfin à Marie-Madeleine plus exactement, le matin de la résurrection, « Je monte vers mon Père qui est aussi votre Père, vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu ». Donc, il se mettait dans la famille, en quelque sorte, et quand il apprend à ses apôtres à dire « notre Père », etc., et le « notre », je pense, l'inclut. Voilà, et il leur apprend à prier comme lui prie, mais on ne se prie pas soi-même. Et donc, il révèle en priant qu'il prie comme fils, et à côté de ça, il dit « Le Père et moi, nous sommes un, ou nous ne faisons qu'un ». Donc, c'est lui qui a révélé le secret des trois. Le secret de famille, qui n'est pas le secret de la Sainte Famille, le fait que Joseph n'est pas son père réel, mais le secret de la famille divine, les trois. Et il les a révélés, alors en priant son Père, et puis en promettant l'Esprit Saint, avec ce passage extraordinaire où il dit « il faut que je m'en aille pour qu'il prenne la place oui. ». La sœur parlait à l'instant de l'Esprit comme ce qui soude l'unité de l'Église oui. et fait de l'Église l'icône de la Trinité. « Il faut que je m'en aille, ne pleurez pas mon départ parce que vous allez y gagner. Et ce que vous allez y gagner, c'est l'autre défenseur, mais si tant que je suis là, lui n'y sera pas. Il faut que je parte pour que lui puisse venir. » Donc il le désigne comme un autre. Et en même temps, constamment, l'Esprit est appelé soit l'Esprit de Dieu, et Dieu c'est avant tout le Père dans le langage du Nouveau Testament, soit l'Esprit de Jésus aussi, il est appelé comme ça. Voilà, oui.
Est-ce que dans l'Ancien Testament, on parle aussi de la Trinité ? Parce que là, vous faites beaucoup allusion à l'Évangile, mais est-ce qu'il y avait déjà une préfiguration, si on peut dire ?
Bien sûr, comment dire, c'est un thème proprement évangélique, mais qu'il y ait des préfigurations, oui. Alors, il y a notamment le livre de la sagesse, voilà, qui est, bon, la sagesse, les proverbes, et peut-être déjà la Genèse, parce que quand vous lisez la première phrase, au commencement, Dieu crée le ciel et la terre, et puis il y avait une terre déserte et vide, voilà, et vient ensuite l'Esprit de Dieu. Alors, je traduis par « ventilant la face des eaux », parce que l'image qu'on retrouve ensuite dans
Planant sur les eaux, c'est ce qu'on
oui,
lit
Oui, c'est
souvent.
Ça. Mais l'image, elle est très concrète. On la retrouve dans les psaumes et chez les prophètes, chez Isaïe, par exemple. C'est l'image d'un oiseau qui bat des ailes au-dessus de sa nichée pour l'aérer, la ventiler. Enfin, le terme, je pense, est convenable. Bon. Voilà, et Dieu dit qu'il y ait, etc., etc. Donc, vous avez la mention de la toute-puissance créatrice qui est à l'origine de tout ce qui n'est pas Dieu. Il y a cet esprit de Dieu qui, voilà, qui met à l'aise la création, si on peut dire. Et c'est la parole qui, chaque fois, crée. Bon, je sais pas, on ne force pas beaucoup le trait en sentant en filigrane déjà oui. la Trinité dès la première phrase de la Genèse. Oui. Et puis après, il y a ce qui est dit sur la sagesse, enfantée par Dieu, aussi éternelle que lui. Hein, il m'a enfanté avant que les choses existent et c'est par moi qu'il les a fait exister. Voilà, ça c'est le livre de la sagesse et le livre des proverbes. C'est avant le temps que dès l'origine il m'a faite et pour l'éternité jamais je ne disparaîtrai. Hein, ça c'est Sagesse 24, verset 9. On pense à Matthieu 24, verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas.
Oui.
Hein. Et il y a un jeu d'écho entre le Nouveau et l'Ancien Testament, bon, ne serait-ce que le début du prologue de Jean, au commencement, hein, et au principe. Il y a le Verbe, voilà. Et de même qu'au début de la Genèse, on a au commencement, ou on peut traduire aussi, au principe de tout.
Oui.
Dieu crée, voilà. Bon, Saint Jean était conscient, je crois, de pasticher la Genèse.
Donc nous avons donc ces trois personnes, comme vous disiez, sœur Anne-Claire, l'amant, l'aimé et l'amour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces personnes ? Quelles sont leurs caractéristiques, peut-être ?
Ouf. Alors c'est une question difficile parce que évidemment on va puiser dans l'Écriture pour répondre à cette question. Il n'y a pas d'autre possibilité. Je je préfère prendre une petite précaution.
Oui.
En théologie, on fait cette précaution, en fait. Finalement, on ne connaît le rôle des personnes au sein de la Trinité que parce qu'elles manifestent au milieu de nous.
Ah oui.
Donc, quel est le rôle de chaque personne pour nous ? Ce n'est pas tout à fait la même chose que la question des personnes au sein de la Trinité.
Oui, bien sûr.
Voilà. La Trinité dans les œuvres, c'est la Trinité éternelle.
Mmh.
Il n'y a pas de Trinité.
Mmh.
Mais, comment dire, ce qu'on va dire en théologie, c'est que toutes les œuvres ad extra de la Trinité, c'est-à-dire que tout ce que Dieu fait en dehors de lui-même, c'est l'œuvre de la Trinité tout entière.
D'accord.
Ce n'est pas l'œuvre du Père, du Fils, soit du Père, soit du Fils, soit de l'Esprit. C'est l'œuvre de la Trinité tout entière. Et ben, si on dit, par exemple, que, le Saint-Esprit répand ses dons, on va dire qu'on dit que c'est le Saint-Esprit qui répand ses dons, mais en même temps, on va s'empresser de dire qu'on approprie ça au Saint-Esprit, pour des raisons qu'on peut expliquer à partir de l'Écriture, tout ça, mais qu'en filigrane, on sait qu'à partir du moment où Dieu fait quelque chose, c'est Dieu Trinité qui le fait.
Mmh.
Voilà. Et donc, je prends l'exemple de la création, puisqu'on a mentionné tout à l'heure Trinité créatrice. Eh bien, ça, on le voit dans l'Écriture. Parce que, effectivement, si on lit dans une lecture chrétienne Genèse 1, on va penser que la toute-puissance créatrice, c'est le Père. Dieu crée. Mais justement, le prologue de Jean nous dit que par le Verbe, tout a été fait. Donc, le Dieu Père crée par le Fils. Et on va, à partir d'autres textes, méditer et voir que tout cela se fait dans l'Esprit.
Et oui, c'est ça.
Et je prends ça directement parce que d'un point de vue biblique, c'est le plus simple, en fait.
Oui.
Donc, de fait, on va se nourrir de ce que l'Écriture nous dit, de telle action. Et par exemple, tout à l'heure, on parlait justement de ces deux paraclés que sont le Fils et le Fils incarné, Jésus, et le Saint-Esprit répandu à la Pentecôte. Mais en fait, il faut pas trop forcer les choses pour dire donc dans la Trinité, ils sont ceux-là.
Voilà. Oui, pas trop distinguer non plus, voilà. Pas trop séparer.
Pas trop, alors, distinguer, mais oui. Pas séparer.
Voilà, c'est voilà. Ça. Distinguer, mais pas séparer.
Alors ça, c'est un premier point. Après, qu'est-ce qu'on peut dire de ce mystère de la Trinité en elle-même? Eh bien que si Jésus lui-même appelle le Père, ça nous le recevons dans la révélation, Jésus nous dit qu'il a un Père, et qu'avec ce Père, il est un, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que Jésus reconnaît dans cette personne, on va en y venir à la question de notion de personne, difficile, mais on est obligé de parler de tout à la fois.
Oui. Tout est lié.
Dans cette notion de cette personne-là, que nous, on va appeler, les Occidentaux en théologie, la première personne de la Trinité, ce que dans son ouvrage sur la Trinité, Olivier Clément, à partir de la formulation orthodoxe de la foi, va dire l'amour en source. L'amour qui se donne totalement et qui fait être le Fils. Voilà. Et le Fils qui se reçoit totalement du Père, ce que Jésus dit d'ailleurs dans l'Écriture, qui se reçoit totalement du Père, évidemment, qui ne se reçoit pas comme un consommateur, parce que nous, quand on pense, si on dit le Père donne et le Fils reçoit, on a l'image des déviations de cela. Mmh. Il se reçoit en donnant. Il se reçoit en donnant. Il se reçoit en action de grâce. C'est pour ça qu'on parle d'action de grâce. Il se reçoit dans un don d'amour. Et tout cela par le Saint-Esprit que... Nos mots sont toujours assez pauvres pour dire.
Pour
et comme, c'est pour ça que j'ai envie d'ajouter un comme le lien d'amour entre le Père et le Fils. Cette circulation d'amour entre le Père qui donne, le Fils qui reçoit et qui redonne, en fait, c'est cette troisième personne, le Saint-Esprit.
Alors, on va marquer une pause et puis on parlera justement de cette relation entre ces trois personnes. Je vous propose d'écouter « Très haut Seigneur, Trinité bienheureuse » interprétée par le chœur liturgique Saint-Ambroise.
Église, Isabelle Duché.
À l'approche de la fête de la Sainte Trinité, nous nous demandons qui sont ces trois personnes de la Trinité, quelles relations existent entre elles et puis comment s'inspirer de la Trinité pour la vie communautaire, comment la prier. Nous posons toutes ces questions à Sœur Anne-Claire, théologienne et religieuse de la communauté de la Croix Glorieuse, et Michel Naudet-Langlois, philosophe. Michel Naudet-Langlois, on va rebondir sur ce que nous disions juste avant cette pause musicale. Ces trois personnes de la Trinité, qui sont-elles ? Ce mot « personne », c'est important de le préciser.
Oui, Saint Augustin a une remarque là-dessus. Et non seulement il priait en réfléchissant, mais il avait de l'humour aussi. Et il y a un passage où il dit « On s'est mis à parler de personne à propos de la Trinité divine parce qu'on ne savait pas que dire d'autre. » Et il fallait bien dire quelque chose pour répondre alors à des grandes hérésies qui avaient déjà lieu à l'époque. Et alors, comme pour le mystère, on peut se référer un peu à l'origine sinon, et à l'étymologie. Il se trouve que les Grecs, les premiers chrétiens de langue grecque, ont emprunté à la philosophie un terme qui désignait la divinité en tant que telle, le terme « ousia », qu'on peut traduire, la meilleure traduction c'est « substance », en tout cas au premier sens du terme, et puis « essence » aussi, c'était les deux sens que Aristote avait distingués. Mais donc ils insistaient pour dire, et ils professaient la foi en disant « il n'y a qu'une seule substance divine, mia ousia », donc c'était le monothéisme, voilà. Et puis, héritant de la prédication des apôtres, ayant reçu la prédication des apôtres, ils affirmaient les trois qui se nomment Père, Fils, Esprit, ou alors la source, la parole et l'amour, ou qu'on appelle aussi le don, puisque les deux noms du Saint-Esprit, c'est l'amour et le don. Alors, il y avait d'une part l'affirmation monothéiste de l'unité de la substance divine, et d'autre part l'affirmation de la Trinité. Alors, de ce qu'on s'est mis à appeler les personnes, les Grecs avaient recouru à un terme qui, en grec, désigne le visage, prosopone. Et il parlait de, bon, dans certains textes, il est question de trois prosopa. Bon. Et il se trouve que ce terme désigne le visage, très exactement ce qu'on a devant les yeux, ce qu'on peut voir, voilà, ce qui se donne à voir. Et ça servait à désigner aussi le masque de théâtre.
Ah,
voilà.
Oui.
Et donc, quelque chose comme un personnage. Hein, voilà. Alors, donc, les personnes de la Trinité ne sont pas des simples rôles divers de Dieu, ce sont des réalités, c'est ce que les Grecs, enfin les chrétiens, ont été amenés à dire. Elles sont réelles, ces trois personnes, bien que Dieu soit unique, voilà. Mais le nom qui leur était donné en grec, prosopone, prosopa au pluriel, renvoie à l'idée de visage. Et alors il se trouve que le correspondant latin du prosopone grec, c'est-à-dire le terme qui désigne en latin le masque théâtral, c'est persona.
Ah, voilà.
Et dans prosopone, on a une référence à la vue, ops opis, voilà ce qui est donné à voir. Dans persona, on a une référence à l'ouïe, parce que c'est le verbe sonare, qui veut dire raisonner, et persona désigne ce à travers quoi, père, la voix sonne, résonne, et sonne assez pour être entendu des spectateurs qui sont les plus éloignés dans le théâtre. C'était ça le rôle du masque, hein, du masque de théâtre dans l'Antiquité. Il y avait ce mot persona, équivalent du prosopone grec, et en latin, les latins se sont mis à parler des personnes divines, et nous continuons à parler latin plutôt que grec en parlant de personne, justement. Évidemment, ce mot est devenu un peu inadéquat, parce que pour nous, une personne, c'est un individu.
Et oui.
Et il s'agissait de dire exactement le contraire, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les personnes divines sont bien des réalités, et je précise des réalités subsistantes, hein, et subsistantes de la subsistance même de Dieu, l'unique subsistance de Dieu, ce sont des réalités, non pas des manières de parler ou de simples rôles, voilà. Et donc, bon, il s'agissait bien d'affirmer la réalité de ce que nous appelons les personnes, mais il s'agissait de tout sauf d'individus séparés. Voilà. Il n'y a qu'une seule substance, la substance incréée, distincte en cela de tout le reste, de tout le créé. Voilà. Elle subsiste, et elle subsiste à un titre encore plus élevé que tout ce qu'elle fait subsister en le créant. Voilà. Mais il est dit, c'est la foi, en cette substance, il y a ces réalités qui sont trois, pour autant qu'on croit ce que Jésus en a enseigné, voilà. Et donc, il faut considérer ou concevoir qu'elles sont trois autrement que comme trois individus distincts, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est là que le concept de relation a été emprunté à la philosophie pour penser ce que pouvait bien être cette réalité des personnes, entre guillemets, voilà. Et la sœur l'a dit tout à l'heure, on est à la recherche d'une distinction qui ne divise pas. Si on veut comprendre ce qui a été dit sur les relations divines ou les personnes divines en tant que relations au sein de la divinité, il faut se référer à cette idée-là. Une distinction qui ne divise pas, la notion philosophique de relation a servi à penser et à dire ça.
Mm-hmm. Sœur Anne-Claire, pour compléter cette notion de relation.
Oui, alors nous, quand on pense relation, on va penser, ben voilà, je suis en relation avec quelqu'un, j'ai des relations avec telle ou telle personne. Quand on est justement en réflexion théologique sur les personnes divines, chacune des personnes, dans cette unité trinitaire, ne se distingue des deux autres que par la relation. Et cette relation n'est pas simplement, une relation qui peut être et ne pas être, qui est accidentelle. Au sens,
en fait, elle est continue, c'est ça ?
Elle est continue et elle est constitutive de l'être. Voilà. C'est ce que, là, je fais un bon... C'est déjà un peu chez Augustin, mais pas le vocabulaire. Il ne va pas utiliser ce vocabulaire, même si l'idée est présente chez lui, de ce que on appellera plus tard ontologie, les relations subsistantes. Dire que les trois personnes divines sont des relations subsistantes, c'est dire qu'elles ne, elles n'ont pas seulement... C'est-à-dire que la relation n'est pas seulement un « j'ai une relation », mais c'est « je suis une relation ». Et c'est fondamental. Le Père est le Père du Fils. Le Fils est le Fils du Père. Et en fait, c'est cette relation au Père qui est le Fils. Pas, voilà. Et ça, c'est quelque chose que nous, on a du mal, parce que nous, on va toujours distinguer entre l'être et le comportement.
Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Et alors que là, c'est tout un.
Dieu, Dieu, en Dieu, il n'y a pas de distinction entre l'être et l'agir. Et donc, en fait, cette relation, c'est beaucoup plus que nos relations qui peuvent être à un moment, puis se rompre ou se reconstruire. Voilà.
Alors, dans votre vie communautaire, vous vivez avec des frères, des sœurs, un couple marié, une personne veuve. Comment vous, vous mettez à l'œuvre justement cette relation, cette notion de trinité?
Alors... pour passer de l'un à l'autre, évidemment, nous ne sommes pas Dieu. Mm-hmm. Donc, c'est pas un scoop.
Ah bon?
et nous recevons, comme tout chrétien, hein, c'est pas, on le vit d'une manière spécifique, on essaye de le vivre un peu intensément en communauté, mais c'est, finalement, c'est la vie chrétienne, en Église et dans toutes les formes de communauté qui puisse exister, y compris à commencer par la première communauté que tout homme normalement, par lequel tout homme normalement entre dans le monde, qui est la famille. Hein. Nous recevons cette unité et ces relations dans l'unité, nous les recevons de notre Dieu créateur. On a parlé tout à l'heure de la Trinité, la création qui est l'œuvre de toute la Trinité, nous recevons, et d'abord nous recevons. Et en même temps, qu'est-ce que l'on reçoit si on contemple ce mystère trinitaire? C'est que ces trois, on l'a dit, pour les pensées en théologie, il faut attenir à la fois l'unité et la distinction des personnes. Sinon, si c'est une unité sans distinction, c'est la fusion. Et la fusion, alors on a besoin du psychologique, on sait ce que ça donne, mais en fait, fondamentalement, des relations fusionnelles ne peuvent pas venir de la Trinité, parce que la Trinité n'est pas une fusion, et ne conduisent pas à manifester le mystère trinitaire. La grande richesse de la relation, elle est dans l'union, la communion, dans la diversité. Donc, ce qui suppose de recevoir de l'autre, de la même manière que le Fils reçoit tout du Père dans une relation communautaire, je dois être en capacité de recevoir de l'autre. D'ailleurs, profondément dans la vie religieuse, c'est le sens de l'obéissance.
Ah oui,
c'est la
sûr.
Capacité de recevoir de l'autre, hein, puisque obéir, c'est écouter, écouter, c'est recevoir une parole d'un autre. Hein. Donc, là, fondamentalement, être en capacité de recevoir, en capacité de donner, et en capacité de donner et recevoir, j'allais dire tout en ayant conscience et foi que cela nous dépasse. Pour laisser sa place au Saint-Esprit.
Oui.
Alors évidemment, dans le concret de nos vies, ça a des implications très concrètes. J'ai parlé de l'obéissance. L'implication d'accueillir cette diversité, d'être capable de la recevoir comme un don, donc du coup, de se convertir notre cœur pour cela. Hein,
oui, parce que, oui, spontanément, ça implique une démarche de pauvreté,
c'est
d'appauvrissement.
D'appauvrissement. En même temps, d'être capable de se donner vraiment et par conséquent de renoncer à ce qui est une recherche de moi-même en dehors de la relation. Parce que finalement, quand on se cherche soi-même, on cherche un accomplissement de soi en dehors de la relation. Et donc tout ça, au quotidien, on perçoit que dans toute vie humaine, au quotidien, eh bien, c'est un appel permanent à la conversion. Et je dis conversion pas seulement au sens de conversion morale, de changement de comportement, mais fondamentalement, la conversion, c'est se retourner pour se tourner vers un autre. Et en fait, ça exige de notre part de se retourner toujours vers ce Dieu trinitaire pour recevoir de lui la capacité de mettre ça en œuvre.
Merci pour cette explication. Il est déjà malheureusement temps de nous quitter. On va terminer par quelques mots de la prière de Sainte Élisabeth de la Trinité, puisqu'elle a composé une prière à la Sainte Trinité. Elle s'adresse d'abord au Père, puis au Fils et ensuite au Saint-Esprit. Et enfin, elle invoque les trois personnes avec ces mots. Ô mes trois, mon tout, ma béatitude, solitude infinie, immensité où je me perds, je me livre à vous comme une proie. Ensevelissez-vous en moi pour que je m'ensevelisse en vous, en attendant d'aller contempler en votre lumière l'abîme de vos grandeurs. Magnifique prière de Sainte Élisabeth de la Trinité. Merci Sœur Anne-Claire, communauté de la Croix Glorieuse de Toulouse, et merci Michel Naudet-Langlois pour cette émission sur la Trinité.